Neptune sortant des eaux. Nous étions à peine descendus de la falaise à la lagune de Puerto Cansado que nous apparaissait, émergeant derrière un pli de la plage, un être bizarre, cheveux et barbe de broussailles blanches, guenilles marron fanées prenant sur une épaule et finissant dans l'entrejambe, peau tannée par le soleil et lissée par l'eau, à la main, plus grand que lui, un harpon de bois. Il s'est approché. Zumri, le chien, a montré les crocs comme il le fait toujours, mais bien vite il s'est tu, désemparé. À l'odeur, à la vue, au son même de la voix, cet être ne ressemblait à rien qu'il eût déjà rencontré. L'homme est venu jusqu'à nous. Ses yeux bleus riaient dans le visage, ridé à l'extrême. Il a extirpé d'un pli de son maigre vêtement deux soles encore vivantes. Et nous avons compris comment il les avait attrapées. Au bout de son espèce de manche à balai, un gros hameçon. La pêche consiste à amener ce hameçon, au milieu des vagues et des remous, sous la tête de la sole, pourtant presque collée au fond marin, et à tirer d'un coup sec. Le fer s'enfonce entre les ouïes, la bête est prise. Deux soles, en tout et pour tout, en une matinée entière. Nous voulions lui acheter son poisson, mais il ne voulait pas le vendre, seulement le donner. Nous l'avons remercié, et, en échange, nous lui avons remis du café, des cigarettes, quelques vêtements. Il s'est mis à parler en langage assani, avec, en plus, un accent jamais entendu. Il nous a fallu longtemps pour comprendre que lui aussi était Rgibat, Rgibat avant d'être marocain. Un homme bleu dont une partie de la famille évolue bien plus au sud, avec un troupeau de 25 chameaux et d'une centaine de chèvres. L'autre partie de la famille est ici, sur la falaise, avec quelques moutons et un chien. Nous étions descendus un peu imprudemment au bord de la lagune, et pour regagner le plateau 30 mètres plus haut, il nous a fallu, dans le sable qui fuyait sous nos pas, travailler à la pelle, aux échelles de désensablement, au treuil même, plus d'une heure durant, pour que nos Land Rover arrivent au sommet. 3 heures plus tard, nous étions à Tarfaya, après avoir traversé la Sebkra Tazra, un lac salé desséché au reflet de miel, puis esquivé les dunes recouvrant peu à peu la piste. Longtemps, une hirondelle nous a escortés. Elle voltait à droite des véhicules, puis s'élançait pour passer en piqué juste devant les roues. Peut-être, par un instinct mystérieux, savait-elle que nous venions nous aussi de ces pays où elle retournera dès le printemps. Dans le sable nu, tout à coup, deux fleurs blanches, aux formes d'anémones. Où trouvent-elles leur eau? D'où viennent les graines? Nul ne sait. Elles sont, me dit Maximilien, extrêmement rares. Pour entrer dans Tarfaya, il faut faire un détour de 10 kilomètres au moins par le sud. Les dunes ont complètement obstrué la piste du nord. Tarfaya, ce sont les 10 maisons qui gardent le cap Juby. Là, en 1927, Saint-Exupéry fut responsable de l'aéroplace, un petit terrain d'aviation aplani dans les dunes, où les avions de la société Latécoère, ancêtre de l'aéropostale, faisaient escale sur la ligne Toulouse-Dakar.
Le cinquième jour, j'étais très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire.
Un mouton, ça mange les arbustes?
Oui.
Et les fleurs?
Et un mouton mange tout ce qu'il rencontre.
Même les fleurs qui ont des épines?
Même les fleurs qui ont des épines.
Alors les épines, à quoi servent-elles? Les épines, à quoi servent-elles?
Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs.
Ah? Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et tu crois, toi, que les fleurs...
Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses.
De choses sérieuses?
Oui.
Tu parles comme les grandes personnes. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme. C'est un champignon.
Un quoi?
Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un grand monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait.
C'est étonnant tout de même de penser qu'ici, voilà plus de 40 ans, un aviateur déjà plus tout à fait débutant, malgré ses 27 ans, après avoir vécu les premiers souffles de la fantastique aventure du ciel, avait été chargé de se concilier les bonnes grâces de la dissidence mort, afin que les pilotes ne soient pas égorgés lorsqu'ils atterrissaient en catastrophe, loin de tout. Étonnant de penser qu'il s'appelait Antoine de Saint-Exupéry, Tonio, Saint-Ex. Étonnant, lorsque nous demandons au raïd du lieu de tamponner nos passeports, d'entendre ce grand arabe aux cheveux blancs et au port altier nous confier en espagnol « Saint-Ex, je l'ai connu. Je l'aidais parfois dans la baraque qu'il habitait près du terrain d'aviation. Nous allions ensemble aussi, de temps à autre, chasser la gazelle. » Aujourd'hui, l'aéropostale a disparu. Mais sur le terrain, tranchant avec les maisons et les chameaux en camailleux briques, deux hélicoptères rouges et noirs attendent. Ils appartiennent à une société pétrolière qui effectue des forages en mer à 50 km au large. De Tarfaya, nous sommes repartis jusqu'à la lisière du No Man's Land qui sépare le Maroc du Sahara espagnol. Dans la nuit, d'étranges camions venaient éteindre leurs phares à quelques centaines de mètres de notre campement. Puis, un brouillard à couper à la machette s'est abattu sur le désert. Ce matin, la brume était toujours là, mais moins intense. Dans le No Man's Land, les camions rouges, marocains, échangeaient leurs marchandises, légumes et produits d'artisanat, avec celles de camions militaires jaunes du Sahara espagnol, couvertures venues des Canaries, transistors japonais, et tout un invraisemblable bric-à-brac. La cour des miracles, sinon à 1000 milles de toute terre habitée, du moins au milieu de l'immensité nue. À l'instant, face aux gorilles de la bandera de la Légion espagnole casquée, bottée et armée, nous attendons l'autorisation de passer en terre coloniale franquiste. 2 heures déjà de patience, les nomades, eux, passent sans problème quelque part entre les dunes. Nous les retrouverons peut-être ce soir de l'autre côté de ce pointillé fictif tracé sur la carte de l'Afrique.